BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs ou des meilleures investisseuses, que vous ayez déjà un capital et que vous voulez le faire grossir ou que vous soyez en train de le construire, ce capital. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web jusqu'à midi tous les jours et puis on est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Au programme de la deuxième partie de l'émission, on va parler immobilier comme tous les jours vers 11h15. Marie Cœur de Roy et notre invité Pascal Py, qui est le cofondateur du cabinet Vous Vendez, Nous Achetons. Tout est dans le nom. Nous serons donc avec ce cabinet d'achat immobilier pour prendre le pouls du secteur. Nous allons parler ETF. Le jeudi, nous dédions notre question-réponse à ces trackers. On vous aide à investir efficacement dans ces trackers et on répond à vos questions avec Jérémy Tubiana de l'équipe de BNP Paribas AM. Et puis pour finir l'émission, on investira différemment et en famille. Comment embarquer votre progéniture dans votre projet d'investissement? C'est Brune Ribadeau-Dumas qui va nous expliquer comment impliquer les enfants et les éduquer à l'investissement à impact positif. Parfois, c'est les enfants qui nous éduquent. On verra ça en fin d'émission. Au programme, il y a vous. Vous nous écrivez, vous réagissez. Les adresses, c'est direct@bfmbusiness.fr et puis en message privé sur LinkedIn pour participer à l'émission. On part du côté de Euronext, rejoindre Antoine. Antoine, avec un CAC 40 qui est bien ancré aux 8000 points, on peut dire que la séance est vraiment positive depuis l'ouverture.
Oui, parce qu'en avant-marché, ça semblait beaucoup plus indécis. Et là, on a une vraie tendance positive qui se dessine. Et encore une fois, un CAC 40 qui arrive à surperformer l'Europe boursière. Vous allez voir, plus 0,52% pour le CAC. On est à 8023 points, alors qu'on est à plus 0,46% pour l'Eurostock 50 et 0,15% de hausse seulement pour le DAX à Francfort. Alors, notre principal ingrédient, ben encore une fois, sont les résultats d'entreprises. Cette fois, il ne s'agit pas du luxe. Il s'agit de tout un tas d'entreprises qui ont fait état de chiffres trimestriels vraiment convaincants, à l'image d'Edenred, qui est solide leader des progressions sur le CAC, plus 4,09%, on est à 46,59€. On a eu Danone aussi avec de bons chiffres. Le titre gagne 1,16% à 59,22€. Et Essilor-Luxottica aussi, plus 1,2% à 203,60€. Et puis quelques belles réussites aussi sur le SBF 120. On a Forvia qui est salué. Le titre gagne 3,3% à 13,99€. Et puis dans l'optique un petit peu d'Edenred, des titres de paiement, on a aussi Pluxi qui est leader des progressions du SBF 120 à plus 4,8%. Alors à noter qu'il y a quand même des déceptions et en particulier Sartorius Stedim Biotech qui perd 14% à 213,90€. Un premier trimestre vraiment difficile pour le groupe. On a la Française des Jeux aussi qui est vendue, moins 2,7% à 35,68€, mais pas de quoi entraver la belle marche en avant de notre CAC 40 qui est en hausse de 0,54%. 8024 points. Alors à noter une sous-performance quand même marquée des titres liés à la technologie puisque l'Euronext Tech Leaders recule de 0,42%. Et qu'on voit justement des petits coups de faiblesse sur les technos, en particulier Capgemini qui perd 0,15%. Sur le CAC, on est à 202,10€. Autrement, la tendance, elle est positive. Elle est même positive pour l'euro-dollar qui reprend du poil de la bête. On est à 1,0683.
Antoine, c'est l'heure de votre histoire et nous allons parler eh bien, de l'événement du jour.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
L'événement du jour, c'est l'entrée en bourse de Planisware, évidemment, cette IPO qui était très attendue et qui diffuse eh bien, un sentiment très positif et peut-être l'impression d'un retour possible des belles introductions. Parce que ça faisait quoi, 4 ans au VH Cloud?
Oui, ça faisait un petit peu plus de 3-4 ans, effectivement, depuis OVH Cloud, qu'on n'avait pas vu une opération aussi bien réussie, qui nous donne une capitalisation boursière pour Planisware d'1,1 milliard d'euros à l'issue de l'opération, parce que, autant vous dire que le titre, il flambe, là, plus 26,8%. On est à 20,29€, donc la capitalisation, mathématiquement, elle monte du côté d'1,3 à 1,4 milliard d'euros. Donc, oui, effectivement, c'était très attendu. Pourquoi? Déjà, parce qu'on avait besoin, justement, que revienne à la bourse des grosses sociétés tech. Et là, en plus, on a une grande société qui est vraiment sectorisée sur la planification de projets au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un secteur qu'on regarde de près, qui est lié à la donnée, qui est lié véritablement au carburant des services informatiques en France. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se retrouve face maintenant à un gros player de ce secteur qui est coté à l'Euronext Tech Leader, l'équivalent de notre Nasdaq, à Euronext. Euronext. Donc du coup, on commence à avoir de belles capitalisations très représentatives qui accèdent à la bourse face pourtant à un marché qui est diablement indécis. On le voit avec l'univers de taux qu'on connaît avec la prime de risque géopolitique. D'ailleurs, Planisware, ils avaient ajourné leur projet. Il y a 6 mois, ils étaient prêts à entrer en bourse et puis ils avaient décidé de reporter le projet. Donc les conditions d'investissement sont maintenant jugées beaucoup plus favorables et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises justement et de nouveaux dossiers qui pourraient véritablement prendre le dessus sur l'actualité. Ces prochaines semaines, on a l'introduction en bourse, alors très très attendue, d'une partie du fonds géant de private equity CVC à la bourse d'Amsterdam. Là, c'est intéressant parce qu'il y a une boucle qui est bouclée entre des groupes qui se développent grâce au private equity, grâce aux levées de fonds, grâce à de gros acteurs comme CVC par exemple, qui décident d'aller en bourse ou qui décident de valoriser une partie de leur système de financement en bourse. On pourrait donc avoir un joli retour des IPO de très grande taille, qui étaient aussi très attendus par les grandes banques d'affaires, faut le dire, avec les fusions-acquisitions. Elles ont quand même besoin de travailler sur ces dossiers pour faire fonctionner leur activité banque d'affaires et de conseil. C'est ce que disait d'ailleurs le patron de Morgan Stanley. Donc, cette introduction réussie de Planisware, c'est peut-être une bonne nouvelle qui en entraînera d'autres et un petit peu pour tout le monde.
Voilà, on espère une bonne nouvelle pour porter les marchés, notamment Euronext. Je vous précise que Pierre Demonsant, le cofondateur et président de Planisware, sera au micro d'Edwige Chevrillon vers 18h15 sur notre antenne, voilà, pour décrire cette IPO rendue possible. Merci Antoine pour ce point financier, pour cette histoire financière à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes, comme l'intégralité de vos histoires. Et cher Antoine, on se retrouve demain sur fond de crypto, puisque demain, normalement, ce sera presque le halving. Vous serez peut-être aussi d'ailleurs avec nous pour en discuter, savoir comment se préparer à cet événement et répondre aux questions de nos auditeurs. A tout de suite pour parler immobilier dans Tout pour Investir.
Tout pour Investir, la place de l'IMO.
Marie Cœur de Roy nous a rejoint comme tous les jours pour couvrir le secteur immobilier. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine.
Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un disrupteur, Pascal Py. Bonjour Pascal.
Disrupteur, j'aime beaucoup. Bonjour Lorraine, bonjour Marie.
Vous êtes cofondateur du cabinet Vous Vendez, Nous Achetons. Alors c'est pratique parce que tout est dans le titre avec vous. On va évidemment faire un petit état de marché comme on fait avec tous nos invités dans cette séquence, n'est-ce pas Marie? Et puis on va parler disruption, nouvelle façon d'agir pour parler en français plus correct, puisque nous évoquerons le sujet des enchères dans l'immobilier, peut-être une manière de sortir du marasme.
Ben oui, c'est un peu le sujet, Pascal. C'est en fait aujourd'hui, on constate quoi ? On constate qu'on a certes des acheteurs qui sont un tout petit peu en train de revenir avec des assouplissements du côté du crédit immobilier, mais d'autre côté, des vendeurs qui ont quand même énormément de mal à trouver les acheteurs finançables ou à accepter de baisser leurs tarifs. C'est un peu ce que vous constatez, vous ?
Alors, il faut qu'ils acceptent de baisser leurs prix.
Ah, j'ai trouvé un copain pour le bureau vendeur.
On est d'accord,
c'est
Marie.
Bien, parce que j'ai la super, vous êtes deux maintenant.
Ah non, mais c'est bien.
On est deux en France, c'est pas mal. Non, mais effectivement, il faut qu'ils acceptent de baisser leurs prix, puisque le marché de l'immobilier, à ma foi, va être impitoyable pour eux, ceux qui ne veulent pas baisser leurs prix. L'acquéreur est en force et il faut bien le comprendre et appliquer les choses. Alors nous, on a une méthode qui est les enchères dégressives. Alors c'est pas la nôtre, je reprécise, j'utilise une plateforme qui s'appelle WinUp et cette plateforme a mis en place ces enchères dégressives qui existent déjà.
Vous allez nous expliquer quand même le concept là pour ceux qui découvriraient.
Tout à fait. Alors le concept est très simple, c'est que à la différence de l'enchère progressive où on met un prix bas et le prix augmente, on enchérit avec tous les acheteurs, nous c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez un prix en fait de fixé et il baisse par palier d'un montant toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'il y ait un enchérisseur. Donc, ça s'adresse effectivement à une autre catégorie de population d'acquéreurs, notamment ceux qui ne sont pas opportunistes. Aujourd'hui, la plupart des acquéreurs ne le sont pas. Et nous, on l'entend puisqu'on discute aussi avec ces acquéreurs qui sont intéressés par ces ventes aux enchères dégressives. Il y a des biens qui peuvent effectivement visualiser en agence, par exemple, sur lesquels ils n'iraient pas visiter. Et le fait de le mettre en enchère dégressive leur permet de débloquer un peu la situation.
Mais justement, pour revenir sur ce principe des enchères dégressives, parce que moi, à chaque fois, ça me fait marrer. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand même, contrairement à une enchère normale progressive, vous partez sur un prix qui est relativement haut, j'imagine. Donc, en termes de comment dire, d'attractivité pour quelqu'un qui a justement envie de faire une bonne affaire, est-ce que finalement, on n'exclut pas tout un tas de personnes ?
Alors, pour répondre à ça, déjà, on prend un prix de marché. C'est-à-dire qu'il y a toujours une évaluation qui se fait par un agent immobilier. Une fourchette basse et une fourchette haute. Donc, je tiens à préciser que c'est pas un prix qui est surgonflé.
Non, mais c'est la fourchette haute.
C'est un prix qui est sur une fourchette haute. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les clients, effectivement, qui ne sont pas opportunistes, ne viendraient peut-être pas sur le prix fourchette haute. Dans tous les cas, le vendeur, en fait, ne vendrait pas. Le fait de faire une enchère dégressive permet à cet acheteur, déjà d'une, de faire une visite sans être jugé.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. Donc, pas de pression, puisqu'il n'y a pas de vendeur, en réalité. Hein. Ils viennent visiter le bien tranquillement. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont pouvoir, depuis chez eux, depuis leur ordinateur, faire la proposition qu'ils souhaitent faire. Donc, fatalement, pour le vendeur, c'est déjà un acheteur. On va dire qu'il a le potentiel d'avoir, qu'il n'aurait pas en fait en temps ordinaire.
Mais en gros, je clique et ça s'arrête, c'est ça? En gros, le premier qui clique, il a gagné.
Tout à fait, le premier qui clique a gagné.
Il a gagné?
Bah, il a gagné, effectivement. Il a gagné le droit de signer un compromis de vente.
D'accord, mais il ne le signe pas là en cliquant. Ce que je veux dire,
non,
c'est est-ce que le vendeur, lui, il a la possibilité de ne pas choisir celui qui a cliqué?
Alors, donc, sur la plateforme WinUp, je vais parler que de la plateforme WinUp, il y a la possibilité pour celui qui n'aurait pas cliquer en premier, de faire sa proposition.
Quand même.
Donc, évidemment, sur la plateforme, il vérifie la solvabilité, le financement des clients. Donc, c'est-à-dire que le vendeur, alors dans l'ordre des choses, doit prendre quand même celui qui a gagné. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, ouais, d'aller sur une enchère. En revanche, si celui-ci se désiste, ce qui peut être le cas, puisqu'on est sur une invitation, on est sur une proposition d'achat, on n'est pas sur une enchère judiciaire où il y a une obligation derrière. Mmh. Donc, évidemment, si celui-ci se désiste, le vendeur a la possibilité de contacter les suivants.
Quel intérêt pour le vendeur, en fait?
Alors,
Nos fameux vendeurs qui ne veulent pas baisser les prix, là.
Alors, l'intérêt, c'est d'avoir déjà une proposition. Je vais donner un exemple très concret, puisque j'ai été agent immobilier longtemps, et je sais que dans les agences immobilières, les vendeurs, souvent, ne veulent pas baisser leur prix, mais attendent une proposition. Le problème, c'est que quand vous avez pris tout votre fichier client, vous n'avez plus de clients, et que vous faites de la pub, mais vous n'avez plus de réassort de clients, et vous ne pouvez pas amener une proposition parce que techniquement, vous n'avez pas de clients.
Mmh.
Donc, l'avantage de passer par une enchère dégressive, c'est qu'on va donner au vendeur finalement ce qu'il attend. C'est une proposition d'achat. Elle sera certes ce qu'elle sera, mais par contre, il aura sa proposition d'achat comme il l'attend.
Et surtout, est-ce que c'est pas l'occasion de lui faire comprendre que son prix de départ était pas le bon, quoi?
Alors,
si par exemple, je veux dire, je suis vendeur et je mets mon bien et je me rends compte que y a personne qui clique avant un certain niveau, je finirais peut-être par me rendre compte que ce que m'a dit l'agent immobilier depuis 6 mois en me disant ton prix il est trop, faut que tu le baisses. Je dis mais non. Est-ce que c'est pas aussi ça le sujet?
Alors c'est aussi ce débat-là psychologiquement derrière. Ça aide le vendeur à réfléchir autrement. Ça c'est sûr. Mais sinon après, il peut appeler, vous vendez, nous achetons. Et donc, on leur fera une proposition.
Parce que vous achetez?
Tout à fait.
À quel prix?
Ça va dépendre du bien. Marie, je ne peux pas dire ça comme ça. Ça va être très compliqué. Mais ils peuvent nous appeler aussi.
Je reviens juste, on va revenir évidemment sur votre concept de vous vendez, nous achetons. Mais justement, sur ce système d'enchères, pardon de vous le dire comme ça.
Ah, dites-le.
On est sûr que c'est des gens sérieux? Vous voyez, parce que ce côté dégressif, il y a un petit côté gamifié, un petit côté ludique.
Oui.
Ça reste une vente en ligne avec un public qui a été capté par un système de réseau. Effectivement, voilà, on ne se balade pas sur l'Internet dans des ventes aux enchères. Je veux dire, voilà, c'est comme des gens qui ont eu le mot. Comment on est... vous parlez de gens qui ne sont pas des opportunistes, mais sont-ils pour autant sérieux?
Des vrais acheteurs. Alors, déjà, en fait, on capte ces personnes-là, en fait, à travers les sites d'annonces, comme n'importe quelle annonce classique.
Vous les sourcez au même endroit?
On les source au même endroit. Et puis, je dirais que, évidemment, ces acheteurs sont sérieux. Pour la plupart, en fait, en tout cas, nous, dans nos ventes aux enchères dégressives, on a eu quasiment que des clients qui achetaient sans prêt. Donc, pour nous, je vais répondre aussi à la question de tout à l'heure, parce j'ai pas eu l'occasion de finir. L'avantage pour le vendeur, c'est que on regroupe d'une part les visites, donc on gagne du temps là-dessus, et d'autre part, en fait, on est sûr d'avoir une proposition d'achat. Voilà. Et donc, les clients en général qui viennent sur ces ventes aux enchères, ce sont des clients qui ont déjà un projet, on va dire, bien lancé.
Et donc du cash à vous entendre.
Tout à fait.
Il y en a pas qui ont besoin d'un crédit et donc du coup à qui vous allez potentiellement demander un accord préalable peut-être de la banque ou d'un courtier qui dit moi je valide que lui pourra aller emprunter tant.
Ah bien sûr qu'on a aussi des clients qui font des prêts, mais je dirais que la plupart, on va dire que 80% sont des personnes qui ne font pas de prêts.
Est-ce que vous avez l'impression justement compte tenu de l'état du marché actuellement qu'il y a plus justement de demandes sur ces enchères dégressives, sur les enchères tout court, sur la nécessité de vendre et de ne pas trouver d'acheteurs? Comment vous percevez le marché par rapport aux offres que vous proposez en fait?
Alors, on sent qu'effectivement l'acheteur cherche une solution pour acheter, dans tous les cas de figure. Maintenant, le fait est que les taux soient un petit peu plus élevés et grignotent sur leur budget, fatalement, s'ils ont besoin de deux chambres, ils vont pas éliminer une chambre.
Ouais.
Donc, il faut bien trouver des solutions pour aller chercher finalement ce qui manque. Donc des fois, c'est pas forcément des sommes astronomiques, mais ça va être 10, 20 000 euros que les personnes n'auront pas dans leur budget. Et grâce à ce système de vente aux enchères, ils vont pouvoir espérer le récupérer. Ouais. Voilà. Alors j'ai bien espéré. Des fois, ça fonctionne. Maintenant, moi, j'ai des exemples.
Allez-y.
Merci Marie. Allez, je me suis mis tout seul dans le. Donc moi, j'ai des exemples. Mais la première vente qu'on a pu faire, le bien était à 190 000 euros. Il est parti à 163 000.
Et le vendeur a réagi comment?
Le vendeur, c'est nous.
Ah oui, c'était vous qui aviez acheté et qui aviez.
Voilà, donc de toute façon, les biens qu'on met nous en vente aux enchères, c'est nos biens.
Vous avez pleuré un peu ou pas?
Comment?
Vous avez pleuré un peu ou pas?
J'ai pleuré, oui, c'est sûr que j'ai un stock de mouchoirs. Donc, j'ai acheté des palettes.
Non, mais du coup, vous arrivez à vous y retrouver, bon?
Bien sûr, on s'y retrouve. On s'y retrouve, mais on fait aussi les choses dans le bon sens. En fait, c'était en plus en plein dans la période où il y avait vraiment plus d'acheteurs. Ouais. Donc on s'est dit, quelle solution on peut amener pour finalement avoir une proposition? Parce que le but pour nous aussi, c'est d'acheter des biens puis de les revendre rapidement. Donc, on ne va pas garder des stocks ad vitam aeternam pour les garder.
Et oui, vous êtes disruptif dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous inventez des solutions pour pouvoir relancer finalement les ventes.
Tout
c'est ça
fait.
Votre pari.
C'est ça notre
pari. Raison d'être.
Et aujourd'hui, on continue dans le sens, même si le marché en fait va un peu mieux aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé
en fin d'année dernière.
Un exemple,
surtout,
j'en ai d'autres. Mais derrière, effectivement, les gens cherchent quand même des solutions.
Mais du coup, est-ce que vous voyez quel type de biens vous allez récupérer? Est-ce que c'est des biens qui sont entre guillemets vendables rapidement malgré tout et que c'est simplement le marché qui fait que c'est plus compliqué aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez, par exemple, je pense à quelque chose, énormément de passoires thermiques dont les gens cherchent à se débarrasser?
Dans ce qu'on achète?
Ouais.
Ah non, on a de tout. Aujourd'hui, on a autant des biens qui sont à refaire avec des travaux, comme on peut avoir de l'immeuble de 30 logements, comme effectivement on peut avoir une maison très jolie bord de la côte. Il n'y a pas de.
Vous ne sentez pas, par exemple, qu'il y ait une espèce de courage fuyon?
Non, on n'a pas de type de produit. Je pense que tous les vendeurs aussi cherchent à vendre. Donc, dans tous les cas de figure, cherchent une solution.
Est-ce que vous en avez?
Donc, pour nous, c'est très bien, parce qu'on a des acheteurs qui cherchent des solutions et des vendeurs qui cherchent des solutions.
Et justement, vous avez des gens qui cherchent à faire la pirouette, qui n'arrivent pas à vendre et qui veulent racheter en parallèle, et avec qui vous pouvez rester, d'un bout à l'autre de la chaîne?
Tout à fait. Tout à fait. On peut aussi travailler en cascade, et ça nous est déjà arrivé. Le client peut être vendeur et acheteur d'un bien.
Bon, je vous pose une colle quand même, parce qu'il nous reste une minute. Il y a quoi en ce moment aux enchères dégressives chez vous? Dans quel secteur de la France on peut déjà dire à nos auditeurs et téléspectateurs d'aller?
Pour l'instant, cette phase d'enchères est quand même en test chez nous depuis quelques temps. Là, on en a refait la semaine dernière, et sur 3 biens qu'on a mis en vente, on en a vendu 2. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, ça reste plutôt dans le Doubs, le Haut-Doubs. Et puis, on va exporter ça, en fait, un petit peu plus sur le reste de la France. Voilà.
Vous vendez, nous achetons. Pascal Py, cofondateur, a des solutions pour redynamiser les ventes immobilières sur notre territoire. Merci beaucoup d'être venu partager sentiment de marché immobilier. Marie, on se retrouve demain. Nous n'aurons pas d'experts pendant 30 minutes, mais nous aurons de l'expertise pendant 15 minutes au moins.
Mais oui.
On parlera demain.
Passoire un peu.
De
aussi.
Passoire. Vous voulez acheter une passoire thermique, mode d'emploi demain.
Ouais.
C'est la promesse de la séquence. Je vous précise que demain, il n'y aura pas d'experts d'immobilier parce qu'il y aura les experts du Bitcoin. Demain, c'est le halving. Le halving est programmé dans les prochaines 48 heures. Vous savez, tous les 4 ans, la production de Bitcoin est divisée par 2. Demain, on sera en équipe pour essayer de décrypter cet événement et savoir à quoi il faut s'attendre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Est-ce que ça aura un impact sur le Bitcoin? Pour vous qui faites peut-être partie de ceux qui considèrent le Bitcoin comme un actif comme les autres. À demain, Marie. Nous restons branchés sur vos finances perso dans Tout pour Investir. À suivre, petite pause. Et juste après, nous parlerons tracker, nous parlerons ETF avec l'équipe de BNP Paribas Asset Management. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On répond à vos questions dans Tout pour investir le jeudi. Nous aimons bien parler tracker, nous aimons bien parler ETF. On se concentre sur les opportunités, les risques, mais aussi les tendances liées aux milliards de dollars et d'euros que ce secteur mondial des ETF, des fonds négociés en bourse, eh bien, concentre. Aujourd'hui, pour en parler, c'est Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes en charge du développement ETF et solutions indicielles pour la France, chez BNP Paribas AM. On va évidemment prendre le pouls, parce que là, on est au deuxième trimestre. Et donc, on a déjà quelques tendances qui se dessinent pour le début d'année. On va parler de flux. Quelques chiffres pour cerner le marché.
Alors, ce que l'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que déjà 2023 a été une des années records en termes de collecte. Cette année, la tendance est encore plus forte. C'est-à-dire qu'à période à mois équivalent, donc à, si je regarde les, par rapport à mars 2023, pour l'instant, la collecte est au-dessus de la collecte de l'année dernière. Donc on est vraiment sur une tendance qui est encore très positive, très poussive sur l'industrie ETF en Europe.
Depuis... Pas poussive du coup, enfin elle pousse littéralement.
Exactement. Mm. C'est vraiment l'année dernière était une des années records et là on est au-delà de la collecte qu'on a connue l'année dernière à la même période. Ce qui va être un peu différent en 2024, c'est que la collecte est essentiellement action. Donc 80% de la collecte depuis le début de l'année est action. L'année dernière, pour vous donner un horizon de comparaison, on était plutôt à 40 voire 50% de la collecte à la même période sur le marché obligataire par exemple. Donc aujourd'hui, on n'est que à 20% de collecte sur les obligations et sur les actions, bah c'est toujours un peu pareil, les actions monde, les actions US, les actions émergentes et les actions japonaises qui collectent principalement.
Donc la collecte action en forme, on le comprend, les indices boursiers se portent bien. Donc avec ces trackers, on a envie de miser sur les entreprises, simplement les de répliquer ce que font les gros indices liés aux résultats d'entreprises, enfin aux entreprises. L'obligataire donne quoi alors ?
Alors 20% de collecte, donc un peu en dessous, sans doute expliqué par le contexte de taux qui est peut-être moins favorable par rapport à l'année dernière. Et la collecte cette année se concentre principalement sur les obligations d'État américaines et sur le segment high yield. Bien que depuis début avril, on voit un regain d'intérêt sur le marché obligataire qui a représenté à peu près 30% de la collecte en avril.
Bon, une tendance qui pourrait continuer malgré le flou plus ou moins artistique qu'il y a autour de ce que vont faire les taux.
Bah, a priori, effectivement, alors ce qui va être intéressant de voir, c'est la richesse que vont apporter le développement d'ETF de manière générale sur le marché. On voit que les grosses innovations qu'il y a actuellement se tournent beaucoup autour des ETF obligataires. Ça répond à un besoin, mais encore une fois, je pense que les investisseurs recherchent sans doute la bonne opportunité, le bon timing par rapport aux annonces, notamment des banques centrales.
En tout cas, recherche de grande qualité et si possible de rendement, c'est ce que vous nous dites. Une dernière tendance que vous relevez ce matin avec nous, c'est la collecte sur tout ce qui est ETF, ESG. Racontez-nous.
Alors effectivement, c'est une donnée qu'on regarde beaucoup chez BNP Paribas Asset Management. Donc là, depuis début d'année, on est plutôt à 20% de collecte, enfin 20% des flux, pardon, qui sont représentés par des ETF ESG. Et ce qui va être très intéressant, c'est l'intérêt différent des clients en fonction des différentes approches ESG. Donc je m'explique. Les investisseurs plutôt institutionnels, les grandes institutions financières, les gros assureurs qui ont des horizons d'investissement vraiment très long terme, vont privilégier...
Est-ce que c'est très long terme ? Parce que vous savez, les horizons,
alors, c'est au-delà de 10 ans en fait. Hein. Quand je suis un assureur par exemple, je regarde vraiment des horizons vraiment qui vont au-delà de 10 ans. Ils ont des convictions fortes autour de l'ESG et ils vont privilégier des investissements à forte exclusion. Ils vont privilégier des investissements ESG, par exemple, alignés aux accords de Paris, tout ce qu'on appelle les PAB. Et donc là, c'est marqué de façon très forte, gros intérêt pour les ETF ESG à forte exclusion de la part des institutionnels. Côté investissement plutôt retail, particulier, via les particuliers, on voit quand même de l'intérêt sur l'ESG, mais plus pour des investissements ESG qui ont moins d'exclusion.
Et donc moins strict.
Moins strict. Et ce qu'on dit aussi, comme c'est moins strict, il y a moins de déviations par rapport aux indices traditionnels. Et à côté, on voit
donc
beaucoup...
autrement dit, la performance est meilleure.
Bah, ça va dépendre des contextes, mais en fait, c'est vrai que l'investisseur particulier aime bien investir sur l'investissement UAG, mais avec des faibles déviations par rapport aux indices qui suivent de manière générale.
On veut bien faire du vert, mais il faut que ça reste très rentable, quoi.
Il faut que ça reste performant.
Pardon, je le dis avec mes mots, parce que évidemment, vous êtes un petit peu cornaqué. Bah, votre parole est un petit peu cornaquée, mais voilà, c'est ça l'idée.
Et ce qu'on voit aussi à côté, c'est beaucoup d'intérêt sur des investissements ESG thématiques. Donc là, on voit avec la démocratisation de l'épargne de manière générale, le fait que de plus en plus d'investisseurs veulent contribuer à des enjeux long terme, sociaux, démographiques, écologiques évidemment. Et donc, on voit beaucoup d'intérêt sur des ETF thématiques ESG.
Vous suivez ce secteur des ETF depuis longtemps. Justement, cette thématisation des ETF, qu'est-ce que c'est ? C'est un effet générationnel, c'est-à-dire que les ETF, on sait, intéressent pas mal de jeunes investisseurs parce que peut-être c'est plus facile à comprendre que d'autres produits, d'autres placements, c'est aussi plus facile à acheter. Est-ce que c'est du marketing parce que c'est facile à marketer un thème par rapport à peut-être un indice ? Je ne sais pas, comment vous jugez cette mode du thématique ?
Alors, ce qu'on voit, moi je l'explique de la façon suivante. On voit depuis quelques années maintenant l'intérêt des investisseurs particuliers pour les ETF, et c'est vrai que quand ils ont commencé à investir sur des ETF, ils achetaient des indices plutôt traditionnels. Mmh. Un indice monde, un indice français CAC 40, un indice américain. Et à mesure qu'ils ont... intégrer cette démarche d'investissement via des ETF, ils cherchent à diversifier. Mmh. Et une des façons de diversifier, vous l'avez dit Lorraine, c'est investir sur des supports qui vont comprendre, vraiment qui vont comprendre clairement, et comme je le disais, qui vont leur permettre de contribuer à un enjeu particulier. Et donc du coup, c'est vrai que l'approche thématique répond clairement à ce besoin. Suivre une thématique avec une totale transparence, une diversification, des frais réduits, toutes les caractéristiques que représentent les ETF, bah finalement, ça répond bien aux besoins des investisseurs particuliers aujourd'hui.
J'ai une réaction d'auditeur de Franck qui nous suit régulièrement et qu'on salue, qui dit oui, les ETF sont à la mode, mais je paraphrase un peu ce qu'il m'écrit, beaucoup de gens ignorent qu'ils ont déjà des ETF, notamment dans leur contrat d'assurance vie, et donc il y a une certaine hypocrisie en fait à dire que les gens se tournent vers les ETF alors qu'en fait ils en font sans le savoir, mal parler.
C'est vrai que depuis on parle de démocratisation encore une fois des ETF, notamment pour les particuliers dans les contrats d'assurance vie, et c'est vrai que ce que l'on observe, c'est l'accentuation l'augmentation de la présence des ETF dans ces contrats. Mmh. Donc chez BNP Paribas Asset Management, on a fait une étude avec Cantalis, l'observatoire ETF, et en fait on recense que plus de 50% des contrats d'assurance vie français référencent au moins un ETF. Mmh. Donc ce qui est plutôt pas mal. La deuxième stat qui ressort un peu de l'étude, c'est que le nombre d'ETF en moyenne a augmenté de 30% dans les contrats d'assurance vie. Donc, c'est vraiment des données intéressantes et qui donnent vraiment une tendance de fond. Et ce qui va être vraiment pertinent et intéressant, c'est que on va retrouver aussi bien ces ETF dans des contrats distribués via des plateformes digitales,
oui,
mais également via des contrats d'assurance vie distribués par des banques privées ou des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Et donc, c'est là où on voit que l'offre s'étend et l'accessibilité des ETF est de plus en plus présente, bien que à côté on voit le développement de plateformes qui vont offrir des comptes titres ou des PEA. Mais dans l'assurance vie, c'est pas nouveau, mais on voit une accélération importante du référencement des ETF.
Est-ce qu'on peut dire que les ETF se démocratisent ?
Bah clairement, on parle même de retailisation. On a évoqué les flux tout à l'heure et beaucoup d'études parlent. Le terme qui est un peu utilisé, c'est la vague des ETF commence. Mais en réalité, c'est un peu étonnant quand on parle de ce terme-là parce que on voit que les ETF ont déjà bien progressé depuis de nombreuses années.
On rappelle que ce sont des produits, on peut dire ça, qui existent depuis plus de 30 ans ou 40
exactement,
ans.
Exactement. Donc depuis les années 90 aux États-Unis, arrivé en France dans les années 2000. Donc effectivement, au départ très utilisé par les investisseurs institutionnels, et le contexte, inflation, baisse de taux, baisse de rendement délivré d'épargne, font que les investisseurs s'intéressent, les particuliers notamment s'intéressent de plus en plus à leur épargne, et donc cherchent des produits simples. Et donc, Qu'est-ce qu'on entend par là quand on dit la vague ETF démarre? En réalité, c'est justement ce sujet de retailisation. Le gros levier de croissance du marché des ETF, c'est l'accès par les investisseurs retail, donc particuliers, sur les ETF. Et donc, le marché de l'épargne grossit énormément, on le sait, et ça va passer notamment par l'intégration des ETF. On parle à peu près de 15% de croissance annuelle d'ici 2030.
En France ou
en Europe, en Europe.
On sait, l'Allemagne est un marché très dynamique en termes d'ETF. La croissance en Allemagne, est-ce que vous avez une idée?
Alors, la croissance en Allemagne est bien plus forte qu'en France, par exemple, parce que c'est un marché beaucoup plus précoce dans l'intégration des ETF, donc le développement des plateformes digitales qu'on évoquait, qui est déjà historique, assez historique en Allemagne, ne fait qu'arriver à peu près en France. La prise de conscience des Allemands sur comment bien gérer mon épargne, là aussi c'est un point intégré depuis bien plus longtemps, et c'est pour ça qu'effectivement les chiffres de collecte, alors j'ai pas de données précises, c'est toujours compliqué de donner des chiffres précis de collecte sur un pays donné. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur allemand peut acheter un ETF sur la bourse de Paris, par exemple. Et réciproquement, un investisseur français peut acheter un ETF sur la bourse allemande. Mais ce que l'on voit, c'est la progression des encours, la progression des flux en Allemagne est effectivement bien plus forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tendance allemande se généralise partout en Europe et notamment en France.
On comprend ce que vous dites en sous-jacent, cette impression que les finances personnelles sont un sujet plus important. Finalement, la gestion passive, elle vient servir à une démocratisation de la finance.
Clairement. Et en fait, on a vraiment vu cette tendance. Alors, à partir du Covid. Le Covid a été vraiment un déclencheur pour beaucoup, pour s'intéresser à son épargne. J'ai un peu plus de temps, je comprends un peu plus ce qui se passe, et donc je m'intéresse à la bourse, et je vais le faire via les ETF. Mais ce qui est là aussi intéressant, c'est que on parle du Covid, mais c'est vrai que historiquement, on avait quand même de nombreux investisseurs qui s'intéressaient aux ETF déjà. Mais en fait, en réalité, c'était pas forcément des experts de la bourse. C'était simplement des gens qui s'intéressaient à leur épargne. Et dans la mesure où je m'intéresse à mon épargne, je vais chercher des produits simples que je vais comprendre, transparents, diversifiés, avec des frais réduits. Et donc, forcément, je vais regarder les ETF.
On parle de démocratisation, on parle beaucoup des ETF Bitcoin, maintenant Ether, qui ont vu le jour aux États-Unis. Est-ce que justement, vous sentez, c'est une question de tendance, est-ce que vous sentez, Jérémy, que justement la population crypto arrive sur les ETF via ces produits qui voient le jour?
Alors, c'est vrai que...
Est-ce que c'est un flux assez important pour qu'on le remarque?
Alors, on ne peut pas vraiment lier ces deux tendances, mais ce qui va être intéressant, c'est le fait que de nombreuses plateformes ayant offert justement l'accès à des crypto-monnaies, par exemple, offrent également l'accès à des ETF, et donc encore une fois dans ce sujet de diversification de son épargne. Et là encore, l'approche ETF, c'est une approche long terme, diversifié, c'est vraiment une logique vraiment différente de l'approche crypto-monnaie. Et on voit que cette culture de j'achète des produits, j'investis sur des produits financiers pour préparer ma retraite, préparer mon épargne sur du long terme, effectivement on voit que cette génération utilise de plus en plus des ETF.
Cette génération, cette population cryptophile.
Qu'on appelle d'ailleurs do it yourself, donc c'est les investisseurs qui se débrouillent un peu tout seuls.
Absolument, et qui sur l'interface de leur plateforme d'achat de produits financiers se retrouvent en fait plus facilement confrontés à la fois aux cryptos et aux ETF, c'est ça que vous nous dites. J'ai une question d'Adriane, vous allez me dire si vous pouvez répondre des beautés. Il nous suit sur LinkedIn, c'est un auditeur fidèle, on le salue. Il nous écrit, est-ce qu'il y a un biais qui fait monter la valorisation sur les big caps vu que tout le monde en achète? Est-ce que c'est pas préférable de se positionner sur des ETF moins populaires que ceux sur les grosses valorisations? Est-ce que vous comprenez sa question et comment on peut lui répondre?
J'ai du mal à bien la comprendre.
Adrien, il faut que vous nous écriviez un petit peu plus.
Peut-être que la question sous-jacente, c'est de savoir est-ce que les ETF entraînent une dynamique de flux à la hausse ou à la baisse? Peut-être que c'est le point, parce que c'est souvent une question
qui
revient. Moi, je comprends.
Est-ce que si tout le monde mise sur un ETF qui réplique le Nasdaq, du coup, ça fait monter le Nasdaq, et du coup, est-ce que quelque part, part, c'est pas un cercle vicieux ou
vertueux? Alors, pour répondre à cette question, je vais donner en fait des chiffres de ce que représentent les ETF aux États-Unis ou en Europe dans la gestion d'actifs au global. Aux États-Unis, par exemple, le marché des ETF, de la gestion passive, représente à peu près 50% des encours. Mmh. En Europe, c'est à peu près 15%. C'est beaucoup plus faible. Encore une fois, la tendance est encore importante. Mmh. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les ETF entraînent une dynamique à la hausse ou à la baisse d'un marché financier. Et le bon exemple, c'est justement la crise du Covid, où on a vu les marchés fortement baisser. Mm-hmm. Et ce qui était vraiment hyper intéressant de remarquer sur l'industrie ETF, c'est que bien que le marché baissait en Europe, les ETF collectaient. Donc, ce qui démontre finalement que ce ne sont pas les ETF qui ont entraîné une dynamique de baisse des marchés financiers.
Voilà, Adrien, on espère vous avoir répondu. Merci Jérémy, Tubiana et l'équipe de BNP Asset Management d'avoir été avec nous pour cette séquence ETF régulièrement le jeudi à 11h30. À retrouver en podcast ou en replay d'ici quelques minutes sur notre site BFM Business et notre application. On va reparler un peu d'ESG pour finir cette émission. On va être avec l'équipe de Quimpa pour réfléchir à comment investir en famille dans un avenir durable. Comment mettre vos enfants au boulot ou vos parents au boulot. Tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement et en famille, c'est l'objet de cette séquence avec vous, Brune Ribadeau-Dumas. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
On va réfléchir avec vous sur comment impliquer ses enfants, mais si on est enfant, impliquer ses parents, on va essayer de faire ça dans les deux sens, dans l'investissement à impact positif. Vous êtes directrice des solutions d'investissement chez Quimpa. D'abord, est-ce que c'est pas le moment de parler finance en famille quand on parle avenir et durabilité?
C'est le moment, effectivement, parce qu'on le sait que l'investissement aujourd'hui, c'est l'un des leviers les plus importants pour essayer de résoudre ces enjeux environnementaux et sociaux. Mmh. On sait aussi que si on arrivait à diriger 10% de tous les capitaux dans le monde vers ces projets, on arriverait à enclencher la transition écologique. Sauf que, par définition, la transition écologique, c'est du long terme. Mmh, mmh. On ne peut pas faire ça sur une génération.
Alors, c'est quoi votre définition de long terme?
Le long terme, c'est de pouvoir enclencher dès maintenant notre projet, mais pouvoir aller sur des investissements qui vont potentiellement avoir plus que 5 ans, plus que 10 ans. Et donc, il faut enclencher les enfants dans cette démarche-là, parce que c'est eux qui vont pouvoir gérer aussi le patrimoine et qui vont avoir cette responsabilité de diriger les capitaux de ce patrimoine dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, toujours vers ces projets-là.
Alors, je ne sais pas à quels parents on s'adresse, parce que je pense que les plus jeunes parents, mais c'est peut-être un préjugé, vous allez me dire, les plus jeunes parents sont déjà assez branchés thématiques durables. Les plus vieux parents le sont-ils aussi? Est-ce que vous observez chez Quimpa
un
intérêt pour la durabilité qui est corrélé à l'âge ou pas du tout?
Pas du tout. En fait, on voit effectivement des enfants, la nouvelle génération, dès leurs 14, 15, 16 ans, ils vont vouloir motiver leurs parents à changer un petit peu les choses. Mmh. Mais on voit des parents même qui ont 50, 60, 70 ans, qui veulent déjà changer et transformer leur patrimoine parce qu'ils savent que leurs enfants, qui peuvent avoir 20, 30, 40 ans, ne veulent pas récupérer leur patrimoine tel quel. Donc ils veulent pouvoir les enclencher, les éduquer et que ce patrimoine soit récupéré et dirigé à bon escient. Les enfants ne veulent pas le patrimoine de leurs parents s'il n'est pas bien utilisé.
Alors, vous allez nous donner une grille d'action, une méthode pour engager ses enfants, si on est dans une logique d'engager ses enfants, ou peut-être ses parents, si on est des enfants et qu'on investit avec ses parents. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Déjà, il faut choisir le bon type d'actif pour investir. Il y a des investissements qui sont beaucoup plus attirants pour impliquer la nouvelle génération que d'autres. Quand on va proposer à des enfants de rencontrer des entrepreneurs qui montent des solutions innovantes dans des start-up, forcément, ils vont être beaucoup plus impliqués que si on leur dit qu'on va investir dans un énième fonds immobilier à l'autre bout de la planète. Donc, il faut choisir le bon type d'actif.
Même si l'immobilier fait SAMU.
Mais rencontrer, être au plus contact des entrepreneurs et des solutions innovantes, ça va en généralement beaucoup plus attirer les nouvelles générations. Et puis ensuite, il faut faire ça ensemble. Donc, il faut définir un cahier des charges, une feuille de route. Nous, on travaille avec le sujet de la thèse d'investissement à impact.
Oui.
On va faire répondre l'ensemble des personnes d'une famille à des questions pour essayer de définir quelles sont les valeurs de la famille, la mission de la famille et les grands enjeux de développement durable qu'ils veulent adresser dans leur thèse d'investissement à impact. Ça peut être la fin de la pauvreté, la fin dans le monde, le changement de l'utilisation de l'énergie, l'économie circulaire. Il y a plein de sujets différents et il faut trouver les sujets qui rassemblent les personnes d'une même famille.
C'est-à-dire qu'on s'assied en famille pour parler de son projet de famille, mais appliqué à la finance.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on veut voir? Quelles sont les valeurs qu'on veut veut voir dans son patrimoine pour trouver après les secteurs dans lesquels on va pouvoir investir.
Bon, la famille, c'est compliqué. Parce que d'abord, tout le monde n'a pas le même temps à allouer à la gestion de l'argent. Ensuite, quand on est une famille, généralement, l'argent vient plutôt des parents. Donc, est-ce que quand on est enfant, on est en droit et en envie d'aller gérer l'argent de ses parents? Sans parler de quand on est parent, est-ce qu'on a envie de laisser ses enfants gérer son argent? Enfin, vous voyez, il y a un problème de gouvernance. Alors, comment vous faites chez Kimpa pour gérer des clients qui arrivent, qui disent, voilà, nous, on est une famille, on investit, on a un véhicule d'investissement familial. Comment vous faites pour mettre un peu d'ordre et de gouvernance là-dedans?
Mais exactement, l'idée c'est de professionnaliser la démarche d'impact dans une famille et que ça se fasse pas au petit déjeuner ou juste entre les parents. Et donc pour ça, nous chez Kimpa, on a des experts de la gouvernance familiale qui vont parler à l'ensemble des membres de la famille et qui vont essayer de trouver justement les valeurs communes qui vont forcer personne. Il y a des personnes dans une famille qui veulent absolument pas s'impliquer, d'autres qui ont envie d'y aller, et donc mettre les bonnes personnes au bon endroit pour essayer après de trouver les meilleurs projets. Donc on va créer des comités, on va créer par exemple un comité de sélection des projets dans lesquels on va investir. Donc c'est pas qu'une fois qu'on investit, c'est dès le début. On va créer des comités de suivi des participations et c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont s'impliquer à chaque fois.
Est-ce qu'on peut exclure quelqu'un de ce comité?
Alors si la personne n'a pas envie d'être présente dans ce comité, elle peut évidemment ne pas l'être. Et elle peut dire, moi ça m'intéresse pas pour le moment, peut-être je veux un autre rôle, peut-être que je veux venir plus tard, je veux faire autre chose.
Est-ce qu'on peut mettre des personnes externes à la famille dans ce comité, dans une logique de conseil, voilà, comme on pourrait avoir dans un board quelqu'un d'extérieur? Comment vous organisez ça?
Exactement, on peut, de la même façon qu'un conseil d'administration, un board d'une entreprise, on peut avoir des gens qui sont externes à la famille et on peut avoir des gens qui sont simplement observateurs et conseillers. Nous, c'est ce qu'on fait généralement, on a des personnes au sein de Kimpa qui vont être dans ces familles, au sein des comités, pour les aider à s'aligner, à trouver à prendre les bonnes décisions et trouver les bons projets qui vont tous avoir un impact fort.
Par souci de pédagogie et pour finir cette séquence, Brune, vous nous suggériez de prendre un exemple très concret. L'exemple d'une famille. Alors racontez-nous cet exemple pour convaincre ceux et celles qui nous écoutent.
Effectivement, donc c'est une famille qui a une entreprise familiale de deuxième génération, qui a donc ses deux parents qui ont trois enfants âgés de 14, 20 et 21 ans et qui ont envie que tout le patrimoine qui a été généré depuis la première génération soit transmis à la troisième génération. Sauf que les enfants, eux, ont une volonté d'impact très très fort et donc ils ont voulu travailler ensemble en famille. On a défini la mission de la famille, les valeurs, et on a défini les grands enjeux de développement durable qu'ils voulaient adresser. L'un d'entre eux, c'était l'agriculture durable, par exemple. Et donc, nous, on a créé un comité de sélection avec le fils aîné et les deux parents. Tous les mois, on leur propose des opportunités d'investissement impact. Aujourd'hui, ils ont réalisé une dizaine d'investissements grâce aux investissements qu'on leur a proposés. Et notamment, 5 d'entre eux dans ce secteur d'investissement de l'agriculture durable, dans deux start-up par exemple, l'une en Finlande qui fabrique du charbon pour améliorer le rendement des sols et l'une en France qui est Genesis, qui est une entreprise qui est une agence de notation de la santé des sols. Et les enfants étaient là dès le début pour sélectionner ces projets-là. Ils sont aux membres du conseil d'administration pour suivre les projets et ils nous demandent chaque trimestre comment est la santé de l'évolution de leur portefeuille.
Cette gestion familiale par rapport à une gestion individuelle, est-ce qu'elle est plus chronophage?
Elle n'est pas plus chronophage si on est bien accompagné et si on a bien défini dès le début quelles sont les thèses d'investissement. Parce qu'en fait, après, dès qu'on va sélectionner un potentiel projet, on va se référer à cette thèse d'investissement et on va voir si ça matche ou pas. Si ça matche pas, on n'investit pas. Si ça matche, c'est que tout le monde était d'accord dès le début pour investir là-dedans.
Et cette thèse d'investissement, comment vous la mettez à jour au fil des années et au fil des innovations? Puisque là, vous avez noté, vous avez suggéré deux entreprises qui sont des assez jeunes entreprises. Une qui s'appelle Carboculture et une autre s'appelle Genesis. Voilà, ces entreprises, il y a aussi une probabilité qu'elles ne fonctionnent pas ou au contraire qu'elles grossissent. Comment, voilà, pour conclure, comment on continue à se mettre à jour?
Exactement. Bah, tous les ans, on va retravailler avec la famille pour leur proposer d'autres potentiels investissements, d'autres potentiels secteurs et on va réactualiser cette thèse pour qu'elle reste effectivement à jour des grandes tendances. Aujourd'hui, on parle de grandes tendances d'investissement impact. L'année prochaine, ce sera peut-être d'autres et nous, on va travailler avec eux, mais il faut être bien accompagné pour ça.
Vous viendrez nous faire les grandes tendances la prochaine fois.
Parfait.
Les grandes tendances de l'investissement à impact tel que vous le percevez chez Kimpa pour 2024. Peut-être on pourrait faire un horizon un peu plus long. Vous voyez, on parlait du long terme. Tout à l'heure, dans la séquence ETF, on se posait la question de qu'est-ce que c'était que le long terme. Peut-être pourrait nous faire un petit exercice de projection.
Sur les prochaines années, parfait. Très bien.
Merci beaucoup, Brune Ribadeau-Dumas, directrice des investissements chez Kimpa, avec nous sur ces sujets investissement à impact, mais aussi culture familiale, culture d'investissement, comment transmettre ces valeurs et ces méthodes d'investissement d'une génération à l'autre et investir ensemble. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay si vous l'avez attrapé en cours de route, comme l'ensemble de nos séquences. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toutes et à tous pour vos messages. J'espère qu'on a pu répondre à quelques-unes de vos questions. Vous continuez à nous écrire. L'émission est déjà disponible, vous l'avez entendu, en podcast et en replay, où elle le sera d'ici quelques minutes sur notre plateforme et notre site web. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler d'achat de passoires thermiques. Mode d'emploi, si vous envisagez d'acheter une passoire ou une bouilloire thermique, demain, on vous donne une grille d'achat. On vous découragera, je ne sais pas, on verra ça demain. Et puis demain surtout, on sera en spécial halving. Tous les 4 ans, la production de Bitcoin est divisée par 2. C'est le halving. Il y en a déjà eu 3. Et le prochain est prévu pour quoi ? Demain, après-demain, c'est
demain,
pas trop
amoureux. Demain, dans la soirée, pour l'instant, mais ça peut encore changer.
Le Bitcoin a déjà battu des records depuis le début de l'année 2024. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ? On essaiera de réfléchir à ça avec vous, Amaury Tonquédec, demain, et notre équipe d'experts. D'ici là, votre dose de crypto, c'est à 15h. Avec vous, Amaury, quel est le programme de BFM Crypto ?
On se prépare pour demain, pour le halving, et on va se demander si finalement, effectivement, vous l'avez dit, Lorraine, il y a déjà eu 3 halvings, là c'est le 4e, on va se demander si celui-là ne va pas être différent des autres pour pas mal de raisons. Et on prendra un peu le pouls des mineurs, les mineurs de Bitcoin, puisque leur récompense va être divisée par 2. Donc il y en a qui vont survivre, peut-être pas tous. Bon, on espère pour eux que ça va aller, mais on va prendre un peu le pouls, leur santé financière, on va dire. Et puis on parlera de blockchain public et privé. Les investisseurs institutionnels investissent de plus en plus les blockchains publics qu'ils boutaient jusqu'à présent. On va voir quelle est la différence et pour quelle raison.
Peut-on faire confiance au public pour gérer la blockchain ? Jean-Marc Daniel est déjà arrivé en studio. Il fait sa tête de crypto-sceptique. BFM Crypto, le club, c'est tous les jours à 15h, mais aussi à 21h30, juste après Tech & Co. Et puis, vous le savez, comme l'ensemble de nos programmes, en podcast et en replay. Sandra Gandon est également arrivée.
Bonjour Lorraine.
Bonjour Sandra. Aux manettes d'avec vous, tous les jours de midi à 13h, quel est le programme du jour ?
Plein de questions encore aujourd'hui, la vie en open space, pour ou contre, comment pimper sa boîte sur les réseaux sociaux, parler de réseau pro quand on est patron et surtout quand on est patronne, est-ce que c'est important ? Et ouvrir son commerce le dimanche avec les jeux qui arrivent, la question se pose pour pas mal d'entre vous. Vous continuez à nous écrire, à nous poser vos questions, on est en live dans un instant sur nos réseaux sociaux et puis cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr pour toutes les questions sur la vie du bureau, pas trop indépendant salarié, c'est pour tout le monde.
Collègue, moi j'ai été en open space à la fois à côté de Sandra et à côté d'Amaury. Dans les deux cas, je vous dis que c'est un combat quotidien de garder la ligne parce que nous ne faisons que manger à la rédaction.
Il y a ce problème.
C'est tout à l'heure avec vous, on parle des sujets qui concernent la vie d'entreprise. L'adresse est avec vous à bfmbusiness.fr. Vous restez branchés, il est 11h56. Bonne écoute sur BFM Business.
Pour investir sur BFM Business.